229, les strophes 4 et 5.
Première épître à Timothée, chapitre 6. Que tous les esclaves qui sont sous le joug estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des maîtres croyants ne les maîtrisent pas, parce qu'ils sont frères, mais parce qu'ils les servent d'autant plus que ceux qui profitent de leur bon et prompt service sont des fidèles et des bien-aimés. Enseigne ces choses et exhorte. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celle de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement, et privé de la vérité, qui estime que la piété est une source de gain. Or, la piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition, car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Je t'ordonne devant Dieu qui appelle toutes choses à l'existence et devant le Christ Jésus qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate que tu gardes ce commandement sans tache, irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, montrera au temps propre, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir, auquel soit honneur et force éternelle. Amen. Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en jouir. Qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prompts à donner libéraux, s'amassant comme trésor un bon fondement pour l'avenir, afin qu'ils saisissent ce qui est vraiment la vie. Ô Timothée, garde ce qui t'a été confié, fuyant les discours vains et profanes et l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée, de laquelle quelques-uns, faisant profession, se sont écartés de la foi. Que la grâce soit avec toi.
Quelques paroles d'introduction sur le sujet, surtout sur la première épître à Timothée. Donc, comme nous le voyons, L'apôtre Paul a écrit 13 ou 14 épîtres, si on compte l'épître aux Hébreux comme une épître de Paul ou pas. Et il y en a parmi ces épîtres 4 qui ont été adressées à des individus. Donc ce sont les deux épîtres à Timothée, l'épître à Tite et l'épître à Philémon. Et donc elles ont un caractère particulier. Elles sont différentes, les quatre. Le contexte de ces quatre épîtres est différent. On pourrait dire que la première épître à Timothée et l'épître à Tite se ressemblent dans le sens que dans ces deux épîtres, on voit Paul qui confie une mission soit à Timothée, dans la première épître à Timothée, soit à Tite, dans l'épître à Tite. Et dans le cas de Tite, la mission, c'est de mettre les bonnes choses, de mettre en ordre les choses dans les assemblées dans l'île de Crète. Donc la pensée de l'épître à Tite, c'est plutôt la pensée de l'ordre au milieu des croyants. Et dans la première épître à Timothée, on voit que la mission de Timothée, on le voit au verset 3 en particulier, du premier chapitre, c'est Paul a demandé à Timothée, a même plus que demandé, il a ordonné à Timothée, commandé à Timothée, avec l'autorité apostolique qu'il avait, de rester à Éphèse afin que tu ordonnes à certaines personnes de ne pas enseigner des doctrines étrangères et de ne pas s'attacher aux fables et aux généalogies interminables, etc. Donc, dans la première épître à Timothée, la mission confiée à Timothée, c'est en particulier en relation avec l'enseignement apporté. Et Timothée devait veiller spécialement à ce que l'enseignement apporté soit celui de Paul, celui qui vient de Dieu, et que l'on n'introduise pas d'autres idées, qu'elles soient issues du judaïsme ou de la connaissance ou de la sagesse de l'homme. Mais on va dire que le point important, c'est l'enseignement qui était apporté. Et on voit que le thème de l'enseignement, de la doctrine, ou aussi la foi, la vérité, revient souvent dans la première épître à Timothée. Aussi, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux épîtres, 1 Timothée et Tite, elles ont été écrites vraisemblablement entre les deux captivités de Paul à Rome. Et on peut penser que Paul a joui de quelques mois ou quelques temps de liberté entre ces deux captivités et qu'il s'est déplacé. Et dans ce temps-là, il a écrit la première épître à Timothée et celle à Tite. Donc, un point important de cette épître à Timothée, c'est l'enseignement, veiller sur l'enseignement apporté. Il y a aussi un thème qui ressort spécialement, un mot qui ressort spécialement, c'est celui de la piété. Je crois qu'on peut compter au moins 8 fois le mot piété dans la première épître à Timothée. Donc Paul insiste sur cet aspect-là. Et peut-être pour expliquer ce que c'est la piété, on peut dire que, ça a déjà été souvent dit, que la piété, c'est ce mélange de crainte de Dieu, de respect, de révérence vis-à-vis de Dieu, mélangé avec la confiance en Dieu. On a la crainte de Dieu, on le respecte, on le révère, mais en même temps, on a une pleine confiance en lui. Et c'est ça la piété. Et avec la piété, on introduit Dieu dans tous les détails de notre vie. Peut-être aussi qu'il y a un verset qu'on peut considérer comme clé dans cette première épître à Timothée. C'est le verset 15 du chapitre 3, où Paul dit à Timothée, donc il lui écrit, verset 14, mais au cas où il écrit, au cas où il tarderait, il lui écrit « afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. » Donc, Peut-être que c'est un verset clé qui exprime beaucoup de choses qui sont contenues dans cette épître. Comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Donc l'assemblée est vue comme étant la maison de Dieu dans cette épître. Et nous sommes dans la maison de Dieu et nous devons apprendre à comment il faut nous y conduire, nous comporter dans la maison de Dieu pour que notre attitude soit agréable à Dieu, qui est le possesseur de cette maison, celui qui habite cette maison. Et il y a aussi cet aspect que cette maison de Dieu, c'est la colonne et le soutien de la vérité. C'est-à-dire que dans l'expression « la colonne et le soutien de la vérité », on a la pensée que nous sommes appelés à faire connaître, à rendre visible la vérité, c'est-à-dire les pensées de Dieu. Et donc la maison de Dieu, l'assemblée est appelée à faire connaître autour d'elle ce que sont les pensées de Dieu, la vérité. Et juste sur ce point, on peut dire donc que l'assemblée est la maison de Dieu, le lieu où Dieu habite. Et donc dans la première épître à Timothée, nous sommes considérés comme étant la maison de Dieu. Et on pourrait dire que nous sommes la maison de Dieu pas seulement quand nous nous réunissons dans les réunions, mais de façon constante, tous les jours, 7 jours sur 7, on pourrait dire 24 heures sur 24, nous sommes la maison de Dieu. Et en tant que maison de Dieu, colonne et soutien de la vérité, notre appel, notre rôle est de faire connaître les pensées de Dieu autour de nous. Et cette pensée de faire connaître, de rendre visible, ressort beaucoup dans cette épître à Timothée, où il y a beaucoup d'exhortations en rapport avec notre attitude, notre comportement, c'est-à-dire ce que l'on voit de nous. Et ça, c'est un aspect aussi qui est important et qui ressort. Qu'est-ce que l'on montre, qu'est-ce que l'on manifeste dans notre tenue, dans notre comportement, dans nos paroles? Et vraiment, ces sujets-là ressortent beaucoup de la première épître à Timothée. Peut-être encore une ou deux remarques. On voit que Dieu est aussi, il y a ce qui est mis en avant, c'est l'aspect que Dieu est le Dieu sauveur, au verset 1 du premier chapitre. Notre Dieu sauveur, et il y a aussi l'accent sur l'évangile. Et on le voit dans le premier chapitre, la pensée de l'évangile et ce qu'est l'évangile, la grâce de Dieu, est mis en avant, en contraste avec ceux qui voulaient ramener à la loi. Alors Paul montre que la loi a son utilité, elle a une utilité, la loi, il ne faut pas la déconsidérer. Son utilité, c'est de manifester ce qui est mauvais, mais la loi n'est pas la règle de vie pour le croyant, et le croyant vit plutôt selon dans la grâce de Dieu et selon l'évangile, comme il est dit, verset 11 du premier chapitre, l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Et peut-être aussi dire que dans cette épître, on a évoqué dans nos prières d'être occupé de la personne du Seigneur Jésus. Il y a quatre versets qui parlent, quelques versets qui parlent spécialement du Seigneur Jésus, et je voudrais juste les mentionner. On a au verset 2 du premier chapitre, le Seigneur Jésus, le Christ Jésus, notre espérance. Je crois que c'est une expression qui ne se trouve pas beaucoup. Peut-être qu'elle est unique, elle ne se retrouve pas vraiment ailleurs. Verset 15 du premier chapitre, il est parlé du Christ Jésus qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dans le chapitre 2, verset 5, il est parlé du Seigneur comme étant le seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au chapitre 3, verset 16, il est de nouveau question du Seigneur Jésus avec le sujet du mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Et dans le chapitre 6 qui est devant nous, il y a aussi deux allusions au Seigneur Jésus. Au verset 13, le Seigneur Jésus, le Christ Jésus, qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate. Et au verset 14, il est question de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand on regarde ces 4 ou 5 versets, on a des aspects qui sont très précieux, différents, complémentaires et très précieux sur la personne du Seigneur Jésus, sur son œuvre, sur son apparition à venir, sur sa vie sur la terre. Et c'est quelque chose aussi qui nous enseigne et qui nous réjouit en nous occupant de lui. Et donc dans le chapitre 6 qui est devant nous, il y a des différentes exhortations que Paul fait à Timothée en rapport avec l'enseignement qu'il devait apporter à Éphèse. Et je mentionne simplement les différentes classes de personnes auxquelles Paul fait allusion dans ce chapitre 6. Il y a tout d'abord les esclaves, au verset 1 du chapitre 6. Donc on voit des exhortations pour les esclaves. Dans le verset 3, il y a un autre caractère de personne plutôt négatif qui apparaît. C'est celui qui enseigne autrement. Et des choses sévères sont dites contre lui, verset 3 et suivant. Au verset 9, il est question de ceux qui veulent devenir riches. Au verset 11, il est question de l'homme de Dieu, Timothée appelé homme de Dieu. Au verset 17, il y a des exhortations pour ceux qui sont riches dans le présent siècle. Et dans les deux derniers versets, il y a un autre caractère de personne auquel il est fait allusion. C'est peut-être ceux qui prétendent avoir une connaissance, mais c'est une simple prétention et cette connaissance n'est pas réelle. Et donc on voit, en rapport avec ces différents caractères de personnes, soit des exhortations, soit des avertissements qui sont donnés, et cela devrait nous occuper aujourd'hui. Et peut-être pour l'étude, ce qu'on souhaiterait, c'est que ce matin, on aille au moins jusqu'au verset 10, pour que cet après-midi, nous recommencions au verset 11, et les exhortations qui commencent à partir de « Mets-toi, ô homme de Dieu ». Il faudrait que cet après-midi, on puisse vraiment commencer au moins à ce verset 11.
Alors, comme on vient de le dire, donc le début de ce chapitre parle de cette première catégorie, les esclaves. Alors, on aurait peut-être que chacun de nous qui avons souvent lu ce chapitre passe un peu rapidement sur ce sujet dont on pourrait penser que c'est des histoires anciennes qui sont moins pertinentes aujourd'hui. Et puis, ce qui est aussi étonnant, c'est que c'est dans les autres épîtres, on voit il y a les exhortations à toutes les catégories, les femmes, les maris, les enfants, et puis effectivement les esclaves. Ici, on n'a que les esclaves. Mais alors, en réalité, ces versets sur les esclaves sont beaucoup plus importants qu'il n'y paraît. Parce que, l'esclavage aujourd'hui est considéré comme une des choses les plus scandaleuses qui soit, qu'il faut même que les pays fassent confession des péchés anciens des siècles passés à cause de l'esclavage qui a été commis, donc c'est présenté comme une gravité extraordinaire. Et puis, dans la considération de l'épître où il est question justement de l'Assemblée, colonne et soutien de la vérité, on pourrait dire, bon, alors la première chose à balayer et à supprimer, c'est bien l'esclavage. Et puis, qu'est-ce qu'on a aux surprises, déjà dans ce verset 1, c'est l'exhortation aux esclaves, elle consiste à respecter justement cet ordre que le monde serait amené à considérer comme scandaleux. Alors on dirait, bon d'accord, il faut qu'il soit soumis, il faut pas qu'il fasse la révolution. Et puis voilà que le verset 2, non seulement parle des esclaves eux-mêmes, mais elle parle comme une chose tout à fait acceptable, qu'il y ait des maîtres qui ont des esclaves et puis qui les gardent et qui agissent, qui profitent même du service de leurs esclaves. Alors, on pourrait dire, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là où l'apôtre est en train de tout renverser et des principes basiques que nous sommes tous enfants de Dieu, tous frères et tous au même niveau. Alors c'est là où en fait on voit que derrière ces exhortations il y a en fait l'enseignement, la direction, que notre affaire n'est pas de changer l'organisation de la société humaine sur la Terre. Notre problème n'est pas d'avoir une influence dans la société de ce monde. Et alors on pourrait dire oui, d'accord. Mais quand même, on est exhorté à la justice. Et alors, c'est là où les versets 3 et 4 sont aussi étonnants, parce que non seulement il dit de ne pas rien changer à l'esclavage, il ne dit pas que c'est une chose bonne, mais il dit n'y touchez pas, c'est pas ça le problème. Et dans les versets 3 et 4, il y a des avertissements d'une sévérité extrême. On a même, je dirais, on n'a pas beaucoup ailleurs dans les épîtres d'exhortations aussi sévères. Si quelqu'un enseigne autrement, c'est-à-dire s'il change quoi que ce soit à cette idée de ne pas changer l'ordre social ici-bas, c'est quelqu'un qui conteste les paroles de notre Seigneur, il n'est pas selon la doctrine, il est enflé d'orgueil, il a la maladie des questions, il a les disputes de mots, il fait de l'envie, des querelles, des paroles injurieuses. On est étonné de la sévérité des paroles de l'apôtre. Alors, comment ça se fait qu'il y a cela? Eh bien, c'est justement que... Et au fond, c'est quelque chose qui donne un peu la force à tout ce chapitre. Parce que c'est pas un chapitre qui va dire, bon ben, sur cette terre, il faut laisser faire, il y a du mal, laissez courir, vous en occupez pas, restez tranquille dans votre coin. C'est pas ça du tout. Il y a une énergie à développer, on la verra plus loin à propos des versets 11 et 12. On est occupé de choses importantes, puisqu'on a même la confession de notre Seigneur Jésus devant Ponce Pilate, et puis on s'occupe du seul souverain qui habite la lumière inaccessible. On est occupé de choses incroyablement élevées, mais... Et on n'est pas là pour changer l'ordre social sur la Terre. Mais pourquoi, au fond? Et alors, on retombe sur cette question de base que l'Assemblée a il y a un appel céleste. Notre espérance, elle est dans le ciel, elle n'est pas sur la terre. Nous, on a bien un témoignage vis-à-vis du Dieu sauveur. On est bien colonne et soutien de la vérité, mais on n'est pas là pour s'occuper des choses terrestres. Et le monde actuel, en particulier la chrétienté, passe son temps aujourd'hui à justement occuper des choses terrestres. Attention, il y a la pollution, attention, il faut remettre de l'ordre, attention, il y a le climat qui ne va pas, attention à l'ordre dans les nations, et l'apôtre est très sévère. Si quelqu'un enseigne autrement que ce qu'il a dit, c'est-à-dire enseigne justement dans cette orientation des choses terrestres, eh bien, il est enflé d'orgueil. Il a mal dit des questions, des disputes de mots, il fait naître les querelles. C'est pas notre rôle, n'est pas là. Le rôle des chrétiens, c'est s'occuper des choses célestes. C'est là qu'est ça, non seulement sa patrie, mais c'est là qu'est ses motifs d'intérêt, ces sujets qui doivent l'occuper. Alors, quelles sont les choses importantes dans la vie ? Eh bien, le chapitre va bien nous le dire, notamment dans les versets 11 et 12. Saisis la vie éternelle. La vie éternelle, et pas s'occuper de la terre et des choses de la terre.
Il y a un point certainement important et qui ressort de ce qui vient d'être dit et que l'apôtre introduit, on peut dire, dès le début de l'épître et qui ressort souvent, c'est la question de l'état intérieur du croyant, de sa conscience, de la réalité des choses, non pas dans ce qui est, non pas seulement dans ce qui est visible extérieurement. L'apôtre parle souvent très pratiquement, de manière très pratique, pour encourager à ce que nous manifestons extérieurement corresponde à ce qui convient au Dieu vivant. Mais la grande question, c'est quel est l'état intérieur. Et certainement que dans les choses générales qu'on peut retenir quant à cet épître, c'est que l'apôtre Paul est occupé d'une part de l'état intérieur de Timothée, de son enfant Timothée, de ce jeune, comme on l'a rappelé dans une prière, bien qu'il ne soit pas de tout jeune, n'est-ce pas, mais peut-être par rapport à Paul. Et non seulement de Timothée, mais de ceux à qui il va communiquer l'enseignement divin. Et je voulais simplement, à ce sujet, citer ce que Paul dit à Timothée dans le premier chapitre et au verset 5. Il dit « La fin de l'ordonnance, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Voilà la fin de l'ordonnance, le but de l'ordonnance, le but de ce que l'apôtre Paul enseignait à son enfant Timothée. C'était ce travail de l'Esprit de Dieu, pour que l'état intérieur soit ce qui correspond à ce que nous manifestons extérieurement. Et l'autre chose peut-être que je voulais encore souligner, c'est l'autorité. Il est parlé souvent de ce mot « ordonné », de l'ordonnance. Et tout d'abord, dans le chapitre premier, il nous est dit que ce que Paul avait reçu, c'était selon le commandement de Dieu notre Sauveur. Dieu a commandé à l'apôtre, non seulement quant à son appel comme apôtre, mais comme on le voit dans le début de l'épître à Tite aussi, quant à sa prédication. Et sans conteste l'autorité de Dieu pour le faire, nous la comprenons. Mais maintenant, celui qui commande, c'est son apôtre, et il a, on peut dire, l'autorité pour le faire, autorité qu'il a reçue comme apôtre, mais aussi l'autorité morale de celui qui a souffert pour le Seigneur, de celui qui s'est donné tout entier à l'œuvre à laquelle il était appelé. Et il était, on peut dire, une personne respectée qui pouvait commander à son enfant Timothée. Nous l'avons vu dans le chapitre 6, mais tout au long de l'épître, il va insister auprès de Timothée pour qu'il commande. Ce n'est pas simplement facultatif pour le croyant de se conformer aux enseignements de l'Écriture. Non pas qu'il s'agisse d'une loi, mais nous sommes placés devant la parole de Dieu et c'est elle qui dirige, c'est elle qui commande. Combien il est important quand nous lisons ces enseignements au sujet des esclaves et certainement qu'on en fera l'application d'une manière bien plus générale encore, parce que qui d'entre nous, s'il appartient au Seigneur, n'est pas esclave, comme l'apôtre Paul se nomme esclave, très souvent au début de ses épîtres. Mais voilà, la parole de Dieu vient nous commander, et nous sommes ceux qui sont enseignés et qui avons à ouvrir l'oreille pour entendre, comme tout à nouveau, ce que l'apôtre nous enseigne dans cet épître.
Continuer ce qui vient d'être dit, et on en a parlé dans l'introduction. Un élément qui ressort de cet épître, c'est en particulier l'enseignement, la doctrine également. Mais on voit que l'enseignement a une importance capitale dans cet épître. Il en est parlé dans tous les chapitres. Et l'enseignement n'est pas seulement, on peut dire, quant aux choses peut-être très élevées, mais on voit bien que par ces portions qui sont devant nous, il y a des éléments dans nos vies journalières que nous avons besoin de comprendre. Et la parole est là pour nous éclairer. Mais le côté de l'enseignement revêtait certainement un caractère important dans les temps où on voit déjà apparaître les doctrines étrangères, comme on l'a vu au chapitre 1er. Et puis en contraste, eh bien, nous avons la bonne doctrine, nous avons la saine doctrine. Mais alors la pensée de l'enseignement, je crois qu'il faut insister sur cet aspect parce qu'on le voit déjà dans le livre des Actes, l'importance de cet aspect, en particulier dans les premiers chapitres. On voit déjà au chapitre 4 que du livre des Actes, au sujet de Pierre et Jean, eh bien, il nous est dit que les Sadducéens surviennent, verset 2, étant en peine de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient par Jésus la résurrection d'entre les morts. Et puis un peu plus loin dans ce chapitre, au verset 18, et les ayant appelés, ils leur enjoignirent de ne plus parler ni enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Et puis on pourrait continuer avec le chapitre 5 et plus loin encore. On voit bien que l'ennemi est là pour contrecarrer la vérité. Et il y avait une importance primordiale, on peut dire, dans ce temps, dans ce début du christianisme, que les enseignements soient donnés, en particulier l'enseignement oral, puisque toutes les écritures n'étaient pas là. Et ici, dans cette épître à Timothée, on voit bien que l'apôtre insiste, et en particulier en rapport avec la jeunesse de Timothée, et il nous faut rappeler que pour nos jeunes, eh bien, c'est la période de la vie où les capacités sont là, où le temps est à trouver pour s'attacher à la parole de Dieu, pour s'attacher aux enseignements qui nous sont donnés pour le bien de nos âmes.
C'est vrai que dans notre société, dans nos temps, il n'y a plus d'esclaves ici, ou en France, ou en Allemagne. Mais il y a une dépendance sur une autorité, que nous avons des chefs au-dessus de nous et que nous devons leur donner honneur, les respecter et accepter qu'il y a des autorités que Dieu a données. Dieu, il nous a donné ses autorités parce que lui, il est le chef de tout, lui est au-dessus de tout. Alors, si lui, il nous a donné des autorités, nous devons les respecter et obéir. Et c'est pourquoi, même s'il n'y a pas d'esclavage ici, on a une dépendance des chefs, des maîtres, qui ne sont plus des maîtres comme autrefois, qu'on appartient vraiment à eux. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient les vendre, ils pouvaient les battre, ils pouvaient même les tuer. Nous, aujourd'hui, quand même, heureusement, grâce à Dieu, on n'a plus ces choses dans nos sociétés. Mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi, pour ne plus respecter les autorités, pour ne plus respecter les chefs, pour ne plus obéir à les ordres qu'on nous a donnés. Je suppose que la plupart d'ici, ils ont encore des chefs au-dessus d'eux. Et alors on doit leur servir, mais nous avons aussi ici qu'il est dit qu'ils estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. En tout honneur, afin, il y a un but, afin que la doctrine, premièrement, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soit pas blasphémée. Si nous nous comportons mal dans notre relation, dans le travail, ou en ne pas respectant toutes les autorités que Dieu nous a données, il y a le danger, on peut blasphémer le nom de Dieu et la doctrine. Alors, si nous respectons Dieu, nous devons. Et c'est pourquoi il y a deux autres passages qui nous parlent beaucoup aussi sur les serviteurs. Je rappelle Colossiens 3. Colossiens 3, verset 22. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, ne servant pas sous leurs yeux seulement, comme voulant plaire aux hommes, mais en simplicité de cœur, craignant le Seigneur. Et le verset clé qui m'a toujours beaucoup dit, « Quoi que vous fassiez, faites-le de cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que du Seigneur vous recevez la récompense de l'héritage. Vous servez le Seigneur Christ. » Dieu nous a placés ici dans ce monde pour le servir, et nous le servons dans toutes nos relations. Nous servons le Seigneur Christ, nous le servons dans notre travail. C'est lui à qui nous servons. C'est lui qui nous a donné ce travail, c'est lui qui nous a donné cette situation, c'est lui qui nous a donné ce chef, même si c'est un chef qui ne me plaît pas, même si un chef qui est injuste vis-à-vis de moi. Je dois le respecter. Naturellement, je dois obéir à Dieu plus qu'aux hommes, mais je dois respecter ces chefs qui sont là. Je dois faire ce qu'ils me disent, si je n'ai pas contre la parole. Alors, et ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire aujourd'hui dans nos sociétés. On ne respecte plus les chefs, on fait ce qu'on veut. Mais nous, comme en servant Dieu, on leur montre à nos chefs, on montre au monde qui nous entoure qu'on respecte les autorités, qu'on sert Dieu. Même si le chef n'est pas là, je fais ce qu'il m'a dit. Et alors, ainsi, le nom de Dieu et la doctrine ne sont plus blasphémés. Un autre passage, nous le voyons aussi dans Éphésiens 6, verset 5. « Esclaves, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, en simplicité de cœur comme à Christ, ne servant pas sous leurs yeux seulement comme voulant plaire aux hommes, mais comme esclaves de Christ, faisant de cœur la volonté de Dieu, servant joyeusement comme asservis au Seigneur et non pas aux hommes, sachant que chacun soit esclave, soit homme libre, quelque bien qu'il fasse, le recevra du Seigneur. » Là aussi, il a dit, « Mais comme esclaves de Christ, faisant de cœur la volonté de Dieu. » C'est ça, nous sommes des esclaves de Christ, ce qui est aussi dit à 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, verset 1. « Que tout homme pense ainsi à notre écart qu'il nous tienne pour des serviteurs de Christ et pour des administrations des mystères de Dieu. » Voilà, on veut être des serviteurs de Christ. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur personnel, je veux lui servir. Et il me met dans une position où je peux le servir et que je peux l'honorer dans mon comportement, dans la situation, dans la vie sociale où il m'a placé.
On relève aussi le verset de 1 Pierre 2. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 18. Vous, domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont fâcheux. Car c'est une chose digne de louange si quelqu'un, par conscience envers Dieu, souffre, supporte des afflictions, souffrant injustement. On voit qu'il y a un témoignage rendu par un chrétien, un croyant, qui accepte l'autorité qui est au-dessus d'elle, alors qu'elle est difficile à supporter. Et là, il faut la puissance de Dieu. Il faut la force qui vient du Seigneur pour pouvoir être en témoignage pour Christ. Et là, la parole encourage, c'est une chose digne de louange si quelqu'un, par conscience envers Dieu, souffre des afflictions injustement. Ne craignons pas les injustices. Ne craignons pas de souffrir pour le nom du Seigneur. Ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu familial, ça peut être aussi dans le milieu collectif de l'Assemblée. Il peut y avoir à souffrir des souffrances pour le nom du Seigneur, même injustement. C'est une chose digne de louange. Il y en a de la gloire pour le Seigneur lorsqu'un chrétien, un croyant, supporte des afflictions injustement.
Nous aimerions lire dans le livre de Zacharie, au chapitre 13. Zacharie, chapitre 13, verset 5. Et il dira, « Je ne suis pas prophète. Je suis un homme qui laboure la terre, car l'homme m'a acquis comme esclave dès ma jeunesse. » De qui le prophète parle-t-il? Eh bien, la chose nous est révélée dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 6. Le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Voilà l'exemple parfait. Le Seigneur Jésus, qui a été l'esclave de tous. Mais comment ? Il a glorifié son Dieu et Père. J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. C'est ce que le serviteur hébreu pouvait dire. J'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Voilà l'exemple parfait du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il est dit du Seigneur Jésus dans Ésaïe chapitre 53, au verset 2, la fin du verset 2, « Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur. » Fin du verset 3, « Il est méprisé et nous n'avons eu pour lui aucune estime. » Voilà la personne du Seigneur Jésus qui est placée devant les yeux de notre cœur pour que, si même, comme notre frère Hervé vient de le dire, nous avons à souffrir des afflictions et de l'injustice, n'y a-t-il pas eu quelqu'un sur la terre qui a souffert des afflictions plus que chacun d'entre nous et des injustices et qui a glorifié Dieu dans toute sa vie? Peut-être encore un verset dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. Il est parlé dans notre lecture de ce matin, les esclaves qui sont sous le joug de leur maître. Le joug, c'était une pièce de bois. Et le Seigneur Jésus vient dire ici, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Eh bien, nous aurions aujourd'hui bien des choses à apprendre par cette lecture et méditation du chapitre 6 de l'Épître à Timothée, pour apprendre du Seigneur la débonnairté, l'humilité, la douceur, mais peut-être aussi un point, l'amour. Notre frère Philippe a cité, et j'aimerais simplement replacer ce verset qui a été placé devant nous par notre frère Philippe, au verset 5 du chapitre 1er de l'Épître à Timothée. Or, la fin de l'ordonnance, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et comme il a pu être dit par les écrits de nos frères, l'amour s'appuie sur trois piliers. Le cœur, la conscience et la foi. Mais ce qui produira un travail profond dans l'esprit du cœur de tout enfant de Dieu, de toute âme qui désire glorifier le Seigneur, eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu.
Quand il est dit ici, afin que la doctrine ne soit pas blasphémée, ça veut dire que le risque de voir des esclaves qui se rebellent ou qui n'obéissent pas, c'est que les gens qui voient, les gens du monde, en concluent que la doctrine chrétienne est quelque chose de mauvais, et quelque chose qui n'est pas bon. C'est-à-dire, Dieu annonce la grâce, et on dit, bon, mais c'est la grâce tournée en dissolution du fait que que le Seigneur est venu user de grâce, alors on peut faire ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il y a la crainte que la doctrine ne soit pas blasphémée. Et alors, on voit que c'est la doctrine qui est liée à la pratique, c'est donc au verset 3, la doctrine qui est selon la piété. Ça veut dire que on fait pas il n'y a pas un développement de la doctrine dans l'abstrait, dans les idées. Et faisons bien attention à ça, parce que c'est un défaut des Français et de la France, c'est de vouloir propager des idées, et d'ailleurs propager la doctrine de l'Antichrist ultérieurement, propager des idées, mais on ne s'occupe pas de la pratique. Alors c'est l'apôtre insiste pour dire attention, il y a une doctrine, mais cette doctrine elle est liée à la piété. On a dit tout à l'heure la piété, crainte de Dieu et confiance vécue, ça doit être lié à la doctrine. Alors encore un mot, on a évoqué sur l'importance de l'enseignement. Mais en fait, l'enseignement, il ne faut pas limiter l'enseignement à simplement ce qui se dit dans l'assemblée ou ce qui se prêche ici ou là. Finalement, l'enseignement, c'est tous ceux qui propagent des idées. Hein, et de ce côté-là, même les gens du monde et tous ceux qui font et de la politique et des théoriciens ou dans le domaine non religieux ou religieux, ils enseignent. Il propage. Et alors on voit que le cadre de ce qui doit être l'enseignement des chrétiens, de ce qu'ils donnent à connaître à l'extérieur, c'est des saintes paroles, celles de notre Seigneur Jésus-Christ et de la doctrine qui est selon la piété. Alors à l'opposé, il faut bien ces versets qui sont devant nous soulignent bien ce que produisent l'enseignement qui n'est pas selon la doctrine. On discute, il y a des questions, on remet tout en question, mais on remet tout en question parce qu'on s'écarte de la parole de Dieu. On dispute de mots. Qu'est-ce que c'est les disputes de mots? C'est un des graves problèmes du monde actuel, c'est que le sens des mots est changé. Même un mot comme l'évangélisation, qui est la transmission de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, on utilise maintenant le mot évangélisation comme simplement propagation même d'idées économiques dans les entreprises. On fausse le sens des mots. Et alors, après, on se querelle. Il y a même... Et alors, pourquoi est-ce que les gens font tout cela? Alors, on voit que le verset 5 nous dit, mais derrière tout ça, il y a la corruption qui estime que la piété est une source de gain. Et puis, d'où après les exhortations sur le contentement. Alors, cette question de source de gain, ça fait tout de suite penser à l'évangile de la prospérité. Et on est frappé que c'est de voir que ce n'est pas une nouveauté d'aujourd'hui. C'est déjà à ce moment-là, on pensait que... on se dit, mais si quelqu'un est pieux, alors c'est les applications de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, l'Ancien Testament promettait une bénédiction matérielle pour ceux qui craignaient Dieu, et alors on applique l'Ancien Testament au jour d'aujourd'hui, et on dit que le chrétien, ben, il doit être prospère. Alors, on vise une source de gain. Mais disons que l'apôtre attire notre attention sur tous ces déraillements qui sont des déraillements d'aujourd'hui. En sorte que mais le contentement, ça produit rien. Ça reste chacun à rien faire dans son coin. Mais non. Alors on va voir après, le croyant a toute une énergie, d'ailleurs dans tous les versets qu'on a parlé sur le Seigneur, il faut rappeler tout encore plus simplement Marc 10, verset 45, le Seigneur est venu non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Très frappant, servir, donner sa vie en rançon. On dit, ben, il ne gagne rien. Il ne gagne rien. Mais parce que c'est le service pour Dieu. Alors, il faut bien lier toutes ces choses les unes aux autres et se rendre compte que la propagation des idées, l'enseignement, c'est pas seulement de quelques frères dans l'Assemblée qui enseignent finalement. Disons, chacun de nous est amené à faire connaître ce qui est la doctrine selon la piété, qui a bien un gain, mais un gain dans les choses éternelles, saisit la vie éternelle, c'est pas dans le gain matériel.
Chantez le 190, verset 2.
Le 190, verset 2.
On a vu donc que le chrétien n'est pas un contestataire sur son lieu de travail ou partout ailleurs. Le chrétien a à avoir cette attitude de soumission et même, comme on l'a rappelé, même si les conditions dans lesquelles il est placé sont peut-être même contraires ou ne sont pas selon les intentions de Dieu à l'origine, comme par exemple l'esclavage. On ne peut pas dire que Dieu approuve l'esclavage, mais le chrétien, même s'il est dans des conditions sociales, politiques, qui ne sont pas selon Dieu, son rôle n'est pas de contester, son rôle n'est pas de remettre les choses en règle, mais son rôle est de se soumettre, et par son attitude de soumission, il est un témoignage. Il est un témoignage pour Dieu là où il est placé dans le monde. Et donc, on a vu que dès ces premiers temps du christianisme, il y avait d'autres idées qui se développaient, ceux qui enseignent autrement, et comme on l'a évoqué à la fin, qui estiment que la piété est une source de gain. Donc, c'est peut-être des personnes qui mettant en avant le christianisme, voulait, avec le christianisme, changer les conditions sociales, politiques, matérielles, terrestres, pour, en utilisant certainement le christianisme, améliorer les conditions. Et le Paul montre que ce n'est pas l'intention, le but du christianisme. Le christianisme n'est pas là pour que nos conditions terrestres soient améliorées, soient meilleures ou soient rendues selon Dieu. En son temps, Dieu rétablira toutes choses, mais c'est quand Christ reviendra régner sur la terre. En attendant, nous sommes simplement des témoins de la grâce de Dieu sur la terre. Et nous sommes appelés à manifester la piété avec le contentement. Verset 6, « La piété avec le contentement est un grand gain. » Donc fin du verset 5, il y a ceux qui estiment que la piété est une source de gain. Mais là, le gain, il est plutôt matériel, il est plutôt terrestre, social. Mais quand il est question, verset 6, « La piété avec le contentement est un grand gain », c'est le même mot, mais ce n'est pas le même gain dont il est parlé. C'est un gain en relation avec Dieu, en relation avec nos âmes, quelque chose d'intérieur. Et nous sommes donc appelés à rechercher la piété avec le contentement. Le contentement, c'est, on pourrait dire, être content, être satisfait de ce que nous avons. Et cela va avec la piété, c'est-à-dire que nous acceptons les conditions que nous avons comme étant données, permises par Dieu dans sa sagesse et dans sa bonté. Les conditions que j'ai, les conditions que nous avons les uns les autres, Dieu les a permises et les a données dans sa sagesse et dans sa bonté. Et si je prends les choses ainsi, donc avec piété, les prenant de la main de Dieu, mes conditions, je les prends de la main de Dieu, eh bien, si c'est Dieu qui me donne, si c'est Dieu qui me donne ceci ou cela, ou qui ne me donne pas ceci ou cela, je m'incline devant sa sagesse et sa bonté, et je suis satisfait, reconnaissant. On peut lire un verset où Paul montre cet état d'esprit, en Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13, on voit en fait Paul qui est un exemple lui-même de cette piété et de ce contentement. Il dit, Philippiens 4, verset 11, « Moi, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. »
Simplement ajouter cette pensée par rapport au gain. Disons les choses comme elles sont dans notre égoïsme. Quand nous pensons à gain, nous pensons à ce que nous pouvons y gagner. Mais pour qui est-ce qu'il y a vraiment un gain? C'est pour Dieu qu'il y a un gain. Depuis toujours, Dieu a voulu sur terre des adorateurs et des témoins. Et si vraiment notre piété, on peut dire, amène Dieu dans toute notre vie pratique, alors nous chercherons, en honorant Dieu, à satisfaire celui à qui nous appartenons. Je vais simplement lire un verset dans l'épître à Tite au chapitre 2. Au verset 10. C'est un enseignement aussi donné aux esclaves. À la fin, il nous est dit, je vais dire tout le passage n'étant pas contredisant, ne détournant rien, montrant toute bonne fidélité, afin qu'ils ornent en toute chose l'enseignement qui est de notre Dieu Sauveur. Voilà le souci d'un vrai esclave. C'est d'honorer son maître, et ici, cela va même jusqu'à orner. Et c'est un ornement de l'enseignement. Et qui est-ce qui est honoré? Qui est-ce qui est, on peut dire, qui est pro, qui a un gain en cela? C'est non pas seulement ceux qui sont les esclaves, mais celui qui est le maître. Et nous pouvons bien nous demander quelles sont les motivations, même de la fidélité. Est-ce quelque part pour nous, pour gagner quelque chose, ou est-ce que nous cherchons ce qui honore notre Dieu, ce qui est un gain pour lui? N'oublions pas cette... Je ne veux pas dire qu'il ne s'agit pas d'un gain pour le croyant. Nous comprenons bien que si nous connaissons l'approbation, la bénédiction de Dieu pour nos âmes, combien cela nourrit notre foi, combien cela est un gain pour nous. Mais n'oublions pas le côté de Dieu.
Quand on lit cette expression que la piété est une source de gain, on est quand même dans un sens étonné de l'association de ces deux mots du point de vue matériel, un gain matériel. Mais si on tourne la page, on a une exhortation qui est donnée aussi bien aux surveillants qu'aux serviteurs. Chapitre 3, verset 3 au milieu, n'aimant pas l'argent. Et puis plus loin, verset 8 au milieu, non avide d'un gain honteux. En contraste et en parallèle, on peut prendre dans 1 Corinthiens 9, où Paul est amené vis-à-vis des Corinthiens à expliquer et justifier sa démarche vis-à-vis d'un soutien matériel de leur part, qu'il a refusé, qu'il n'a pas voulu. Et qu'est-ce qu'il dit au chapitre 9? Il pose toute une série de questions. Verset 4, ça commence. N'avons-nous pas le droit de manger, de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur comme femme, comme font aussi les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? N'y a-t-il que moi et Barnabas qui n'ayons pas le droit de ne pas travailler? Qui jamais va à la guerre à ses propres dépens? Qui plante une vigne et n'en mange pas? Qui paie un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau? Est-ce que je dis ces choses selon l'homme, ou la loi aussi ne dit-elle pas ces choses? Car dans la loi de Moïse, il est écrit, tu n'emmezelleras pas le bœuf qui foule le grain. Et alors plus loin, il évoque pourquoi il n'a pas voulu être soutenu matériellement. Plus loin dans le chapitre, si je fais verset 17, on peut commencer, donc on est déjà verset 16. Si j'évangélise, je n'ai pas de quoi me glorifier, car c'est une nécessité qui m'est imposée, car malheur à moi si je n'évangélise pas. Car si je fais cela volontairement, j'en ai un salaire, mais si c'est malgré moi, une administration m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est qu'en évangélisant, je rends l'évangile exempt de frais, pour ne pas user comme d'une chose à moi de mon droit dans l'évangile. Aux Philippiens, Paul pouvait les remercier du soutien matériel. Et au fond, quelque part, on a tout le parallèle d'ordre spirituel que Paul fait là avec sur le mot gain, utilisé dans les deux sens, mais la base qui vient ensuite de ce qu'il a dit au verset 5, des hommes corrompus dans leur entendement. Voilà des personnes qui ont vu que quelqu'un qui avait une charge dans une assemblée, il ne travaillait pas et il était pris en charge. Oh, mais c'est intéressant ça. On n'a plus besoin de travailler et on est pris en charge. voilà, qui est intéressant matériellement pour une âme corrompue, pour une âme qui n'aurait pas la vie ou qui se serait écartée du chemin du Seigneur. Et on envisage à ce moment-là que, mais cela pourrait être une source de gain d'enseigner, d'être serviteur. Et en substance, ne nommant pas expressément cette chose-là, Paul coupe, si je peux dire comme ça, l'herbe sous les pieds de ce raisonnement. C'est ce raisonnement qui mène à quoi? À un asservissement à l'argent, au bien matériel. On peut d'ailleurs, une remarque juste pour terminer, fin du verset 2 et début du verset 3, enseigne ces choses et exhorte. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, le autrement, on peut le généraliser à tout ce que Paul a dit dans cet épître. Frère Darby n'a pas voulu faire de coupure de paragraphe à cet endroit-là, mais on pourrait avoir une coupure de paragraphe à enseigne ces choses. Et à ce moment-là, on voit ce qui suit en regard de tout ce qui a été présenté dans cet épître. Les enseignements qui ont été donnés, que Paul a rappelé à Timothée. Pas juste ce qui concernait les esclaves, mais tout ce qui précède. Et à ce moment-là, on a une autre perspective sur ce qui suit, sur ce qui s'est mis en garde par rapport à ces personnes qui ont dévié, qui ont un comportement, une pensée dévoyée, qui leur amène jusqu'à estimer la piété comme une source de gain. C'est une chose terrible. Moi, ça m'a toujours choqué en lisant ce paragraphe qu'on arrive à ça, qui estime que la piété est une source de pain. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est imaginable une démarche pareille? Quand on voit l'abaissement du Seigneur, quand on voit comment il est allé dans la pauvreté, et ce à quoi il nous invite, regarder en haut et avoir nos richesses dans les cieux.
Un verset dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 5. Que votre conduite soit sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement. Car lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. En sorte que, plein de confiance, nous disions, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai point que me fera l'homme. Plein de confiance, la piété. Les Hébreux, ils avaient au chapitre 10, Hébreux 10, verset 34, « Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents. » L'apôtre amène donc ces Hébreux à fixer les yeux non plus sur des bénédictions matérielles, ce que les Juifs attendaient, on peut dire, mais sur les biens permanents. Et on est frappé de la brièveté de ce verset. Or, la piété avec le contentement est un grand gain. On peut dire que c'est un verset qui ne fait pas de bruit. Le contentement ne fait pas de bruit, la piété ne fait pas de bruit. En contraste avec les versets précédents, où on voit que l'orgueil produit la maladie, et puis cette maladie va en s'escaladant, on peut dire, avec les œuvres de la chair qui sont manifestées là, et qui font non seulement du bruit, mais du mal et des ravages. Alors qu'ici, eh bien voilà, la piété, elle est indissociable. Le contentement est indissociable de la piété. C'est un tout, un ensemble, qui est un grand gain. Et le croyant réalise cela, on peut dire, dans son cœur, une relation avec le Seigneur Jésus qui a pris cette forme d'esclave, on peut dire, qui était là pour accomplir la volonté de son Père. Il n'y avait pas d'autre objectif que celui-là. Eh bien, le croyant recherche la piété avec le contentement. Et on peut dire aussi que c'est l'approbation divine qui est là, le grand gain.
Juste un mot pour continuer cette même pensée. C'est verset 9, « Or ceux qui veulent devenir riches ». Alors on a tout le problème de la volonté du croyant. Qu'est-ce qu'on veut ? Alors le contentement, c'est l'inverse. C'est effectivement, il n'y a pas de volonté propre. Alors on tombe dans cette question de toute la dépendance, la vie de dépendance, où dépendre du Seigneur, c'est attendre de lui le gain, la vie éternelle. Mais c'est attendre de lui les directions, les conduites, comment il faut se conduire. Alors, on veut rien, on demande au Seigneur, mais on veut quand même. Mais ce qu'on veut, c'est que le Seigneur soit glorifié. On a l'expression dans Philippiens que tous cherchent leurs propres intérêts et non pas ceux de Jésus-Christ. Cherchons les intérêts du Seigneur. Alors ça, là, il faut vouloir.
Je voudrais lire aussi un passage de 2 Corinthiens, chapitre 6, à propos des apôtres, des serviteurs du Seigneur. Verset 10, 2 Corinthiens 6, verset 10, « Comme pauvres, mais enrichissant plusieurs, comme n'ayant rien et possédant toutes choses. »
C'est quand même intéressant que ces enseignements viennent maintenant, après qu'on nous a été expliqué les autorités et comment c'est dans l'ordre ici. Nous voyons que juste après, les esclaves, même si la relation est donnée aussi à tout ce qui a été dit là, qui nous est parlé, qui commence à discuter. C'est aussi quelque chose qu'on aime beaucoup aujourd'hui. Bon, peut-être moi aussi, dans ma jeunesse, j'ai aussi beaucoup aimé à discuter, mais on le voit encore davantage aujourd'hui. On met tout en question, tout. Les autorités aussi, et ça, ce qui est grave, on met aussi en question l'autorité de la parole. On vient de dire, alors, la doctrine peut être blasphémé. Si on n'accepte plus la doctrine, si on n'accepte plus ce que l'Écriture nous dit, on commence à discuter sur les mots. Est-ce que Dieu a voulu vraiment dire ça avec ce mot? Est-ce que c'est vraiment le sens de la pensée de Dieu? Et on discute, parce qu'en réalité, on n'accepte pas la parole de Dieu. On se soumet pas à cette autorité. Et puis, on veut, parce qu'on veut faire ce qui nous plaît, parce qu'on veut faire ce qu'on veut, on vient juste de dire vouloir. Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux faire ma volonté ou est-ce que je veux faire la volonté de Dieu ? C'est ça qui est la question ici. Parce que si je veux faire ma volonté, je vais avoir un profit pour moi. Et si je mets ça encore un manteau de comme si c'est la piété, je veux me rendre un peu plus saint aux autres pour leur dire voilà c'est tout très spirituel. J'ai trouvé des raisons spirituelles pour mon comportement. Comment j'agis vis-à-vis de mes frères et sœurs. Tout à l'heure on a vu que les esclaves devraient accepter aussi leur maître croyant, parce qu'ils sont des croyants et des fidèles, des bien-aimés. Est-ce que j'accepte que mes frères et sœurs sont des croyants, des bien-aimés. Est-ce que je les aime? On vient de rappeler ce qui est dit au début de cette épître. C'est l'amour. Est-ce que c'est l'amour pour mes frères et sœurs qui m'entraîne à agir, ou c'est l'amour propre qui m'entraîne? On a l'impression qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est surtout l'amour propre qui nous entraîne. C'est pourquoi il y a tellement de divisions, de disputes, de toutes sortes de mal, même parmi les croyants. Parce qu'on n'accepte plus la parole de Dieu. Et ainsi, la doctrine est blasphémée. Et on prend ça pour un gain propre pour moi, que moi je veux profiter. C'est la devise aujourd'hui, je veux profiter maximum de tout ce qui est possible. Même je veux profiter des frères et sœurs. Nous voyons ça aussi ailleurs. Alors on nous a dit, alors on est un corps, vous devez nous donner ce que vous avez. Une sorte de communisme chrétien, hein. Tout était égal. Non, ici, on a juste eu un ordre qui nous donne qu'il y a des maîtres et des esclaves. Il peut aussi y avoir des maîtres croyants et des esclaves croyants, et ils doivent être subordonnés au-dessous d'eux, ils doivent obéir. C'est comme ça que la doctrine n'est pas blasphémée. C'est que j'accepte tout ça. Alors, et que je ne veux pas prendre un avantage sur tout ce qui m'est donné. On a mis le Seigneur Jésus, c'est lui devant nos yeux, c'est lui le grand modèle, c'est lui qui s'est abaissé jusqu'à la mort, à la croix. Et alors, nous avons vu aussi l'apôtre Paul, comment il était, qu'il a appris d'être content de ce qu'il y a. S'il nous a dit ici, la piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Alors, ce temps que nous sommes ici dans ce monde, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons être un témoignage pour le Seigneur? Est-ce que nous voulons être semblables à lui? Est-ce que nous avons cette nature, cette vie chrétienne qu'il nous a donnée, cette vie éternelle, nous avons sa nature, sa vie est notre vie. Nous devons montrer sa vie dans ce monde. C'est ça ce qu'il nous a montré. On est devenu homme, il n'a rien apporté dans ce monde, il était né comme un bébé, il est mort parmi les brigands, comme on lui a même enlevé ses vêtements. Et nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons avoir des richesses. Nous voulons avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, une carrière formidable dans ce monde. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons être semblables à notre Seigneur? Est-ce que nous voulons être un modèle pour ce monde du Seigneur qui dit, voilà, c'est un chrétien. Ils ont été appelés chrétiens parce qu'ils montraient cette vie de Christ. Est-ce qu'on voit chez nous que nous sommes des chrétiens? Ou est-ce que nous sommes comme des gens de ce monde qui cherchent les richesses de ce monde, qui cherchent à faire une carrière professionnelle, qui veulent amasser plein de choses? On sort du monde sans rien. Est-ce que nous avons quelque chose, des richesses? Est-ce que nous avons acquéri des richesses qui sont valables pour l'éternité? C'est ça ce qu'il veut. Est-ce que nous avons devant nos yeux qu'il va nous dire un jour, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître?
Alors, dans le verset 10, on a cette expression, ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. On est frappé par la tromperie que Satan est le menteur. Et dès le commencement de Genèse 3, il a dit « vous serez comme Dieu ». et Satan amorce toujours la chacun, alors chacun étant attiré, c'est Jacques, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise ayant conçu enfante le péché étant consommé produit la mort. Et entre-temps, on voit la convoitise qui transperce de beaucoup de douleurs. On a voulu désirer quelque chose, et c'est comme l'exemple suprême, si on peut dire, c'est de Judas. Il a eu ses 30 pièces d'argent, mais finalement, le remords a été tel qu'il s'est pendu.
Souligner l'expression du verset 9, ceux qui veulent devenir riches. En soi, être riche, c'est pas quelque chose de mauvais en soi d'être riche. Mais là, ce qui est visé, c'est la volonté de devenir riche. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'insatisfaction qu'il y a dans le cœur par rapport à ce qu'on a et de vouloir plus, de vouloir autre chose que ce que Dieu a permis qu'on ait. Donc c'est ça qui est le danger qui est souligné ici. Mais les richesses sont aussi un danger en elles-mêmes, et on le voit, le Seigneur le montre avec l'épisode du jeune homme riche, on voit par exemple en Marc 10, il montre que les richesses sont un danger en elles-mêmes. Mais être riche en soi, et on le verra, il y a des exhortations pour ceux qui sont riches dans le présent siècle, au verset 17, n'est pas mauvais en soi. On pense par exemple à Joseph d'Arimathée, qui était un homme riche et que Dieu a utilisé en son temps pour s'occuper du corps du Seigneur. Et on a parlé de ces questions des richesses terrestres, des richesses célestes. Et on voit dans les paroles du Seigneur, le Seigneur évoque tous ces sujets dans les évangiles. Et je pense en particulier à Luc chapitre 16. Alors il me semble qu'il était fait référence aux paroles de notre Seigneur au verset 3 de 1 Timothée 6. Et le Seigneur parle de ces sujets, alors notamment en Matthieu chapitre 6, dans le sermon sur la montagne, en Luc 12, en Luc 16, il y a certainement aussi ailleurs, mais dans ces trois chapitres que je viens de citer, Matthieu 6, Luc 12, Luc 16, il y a beaucoup d'enseignements du Seigneur sur ces questions des biens et des richesses. Et en Luc 16, on voit, alors c'est un chapitre en soi qui mériterait d'être considéré, mais je voudrais juste faire allusion à un ou deux points. Le Seigneur dit, verset 11, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies ?» Et si dans ce qui est à autrui, vous n'avez pas été fidèle, qui vous donnera ce qui est votre ? Voit que le Seigneur, il met en contraste deux types de richesses. Les richesses injustes et les richesses vraies. Les richesses injustes, ce sont les richesses matérielles. Non pas qu'elles soient injustes en elles-mêmes, mais pourquoi il les appelle injustes ? Parce que souvent, elles sont utilisées d'une manière injuste. Mais en elles-mêmes, elles ne sont pas injustes, mais souvent utilisées de manière injuste. Donc il dit, il y a les injustes et il y a les vrais. Et là, posons-nous la question, quelles sont les vraies richesses dans ma vie, à mes yeux ? Est-ce que ce sont les choses matérielles ou est-ce que ce sont les choses célestes ? Et puis il dit, verset 12 de Luc 16, il fait le contraste entre ce qui est à autrui et ce qui est à nous-mêmes. Et en fait, quand on réfléchit, ce qui est à autrui, ce qui est à quelqu'un d'autre, ce sont les richesses matérielles. C'est-à-dire que si Dieu me confie des richesses matérielles, elles ne sont pas les miennes, ce sont les siennes. Mais il me les confie juste pour que je les administre selon lui. Mais les richesses spirituelles, les richesses célestes, elles sont les miennes. Et là aussi, c'est une question pour nous. Est-ce que je considère les richesses célestes comme étant à moi, comme étant les vraies, ou est-ce que je considère les richesses matérielles de cette manière-là? Et dans Matthieu 6, on peut citer les versets 19, 20, 21, où le Seigneur dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille gâtent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni la teigne ni la rouille ne gâtent et où les voleurs ne percent et ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » On le verra dans le verset de 1 Timothée 6, il est question de l'incertitude des richesses. Et le Seigneur, il le montre bien dans ces versets de Matthieu 6, 19 à 21, que les richesses terrestres, elles sont incertaines. On peut nous les prendre, mais les richesses célestes, elles sont assurées. Personne ne nous les prendra. Et les richesses sont donc incertaines, et comme on l'a dit aussi, elles sont trompeuses. Et on voit cette expression, par exemple, en Marc 4, verset 19, c'est le Seigneur qui parle des quatre terrains sur lesquels la semence est semée. Et sur le troisième terrain, il dit que la semence est semée entre les épines, verset 19, et les soucis du siècle, et la tromperie des richesses, et les convoitises à l'égard des autres choses, entrant, étouffent la parole et elle est sans fruit. Donc les richesses sont incertaines. On peut les perdre du jour au lendemain et elles sont trompeuses.
Je voudrais lire un verset dans la première épître de Pierre. Dans le chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme forains et étrangers à vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme. Les convoitises qui font la guerre à l'âme. Et dans ce combat, nous pouvons succomber. Et nous voyons dans le passage que nous avons lu que quelques-uns ayant ambitionné se sont égarés de la foi.
Je pense à un verset, je ne sais pas le retrouver. Si les biens augmentent, n'y mettez pas votre cœur. On peut être fidèle et attentif un temps par rapport aux conditions dans lesquelles nous sommes. Le Seigneur nous a placés. Et puis, il peut y avoir un temps ultérieur où nous risquons d'être pris par ce piège, parce que les biens augmentent, parce qu'il y a des choses que le Seigneur nous donne, mais attention pour les gérer pour lui, par amour pour le Seigneur. Il n'y a pas de plus grande joie que de servir le Seigneur en le servant seul, c'est-à-dire en faisant les choses pour lui. Lui sait, lui connaît, lui rémunérera en son temps. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est bien le bonheur du croyant de pouvoir offrir ce qu'on a reçu. Et ce qu'on a reçu, on l'a reçu gratuitement. C'est Jésus-Christ, c'est la connaissance du Seigneur Jésus. Eh bien, donnons gratuitement, que l'on puisse vraiment avoir, être gardé du danger des biens qui augmentent. N'y mettez pas votre cœur.
Encore un verset dans le livre des Proverbes, au chapitre 30. C'est donc Agur, fils de Jacquet, l'oracle prononcé par cet homme. Et au verset 7, « Je te demanderai deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire, de peur que je ne sois rassasié et que je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, et de peur que je ne sois appauvri et que je ne dérobe et que je ne parjure le nom de mon Dieu. On voit donc que les richesses sont un danger, et on le voit dans, on peut dire, toute la parole. Abraham et Lot, la question est déjà là. Eh bien, Agur demande avec sagesse, et nous pouvons sans doute le faire dès le début de notre carrière. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Il y a, on peut dire dans un sens, un danger des deux côtés. Ici, la ruine dans notre chapitre, la perdition, sans doute qu'ici il s'agit donc de l'incrédule, puisqu'il est parlé de perdition. Mais le danger est réel. On l'a vu, c'est un danger pour l'incrédule. La semence ne va pas germer, étouffée. Mais c'est aussi un danger pour le croyant. Et Agur, dans sa sagesse, eh bien, va faire cette demande. De peur que je ne sois rassasié et que je ne te renie. Voilà. Le côté du croyant. On connaît le Seigneur Jésus, peut-être depuis tout petit. On avance dans le chemin. On a parlé d'une carrière brillante. L'ennemi amorce. Et puis, eh bien, je peux renier celui que j'ai connu. Eh bien, que le Seigneur nous donne le secours pour que, avec ce qu'il nous donne, et on voit bien que il y a aussi le contentement ici, nourris-moi du pain qui m'est nécessaire. Eh bien oui, que le Seigneur nous donne la sagesse dont nous avons besoin en rapport avec ce qu'il nous donne.
Du mot contentement. Être content avec ce que Dieu nous a donné. La piété avec le contentement. Alors, est-ce que je suis content ce que Dieu est pour moi? Ou est-ce que j'ai aussi encore d'autres désirs? Ici, le contentement, il nous dit, si nous avons nourriture et à nous couvrir, nous serons satisfaits. Alors, si je lis ça, je suis couvert de honte. Est-ce que je suis content avec être couvert et avoir à manger, ou est-ce que je veux plus? On oublie même peut-être de remercier Dieu pour la nourriture qui vient de lui. Est-ce qu'on remercie Dieu pour si nous avons un salaire régulier? On connaît des croyants qui ne savent pas ce qu'ils vont manger demain et qui n'ont peut-être juste un habit qu'ils lavent chaque soir pour le remettre le lendemain. Et nous, est-ce que nous regardons dans nos armoires, qu'est-ce que nous avons? Dans nos frigos qui sont pleins? Et nous ne sommes toujours pas contents. Voilà. Est-ce que nous pensons vraiment, qu'est-ce que ça veut dire, contentement? Être content avec ce que Dieu nous donne. Et il nous a donné toutes les richesses. Est-ce que nous nous réjouissons de ces richesses qu'il nous a données, des richesses spirituelles, en plus de ces bénédictions terrestres qu'il nous donne? Ou est-ce que nous sommes tellement occupés de ces choses terrestres que ces richesses nous gardent nos yeux fixés vers en bas au lieu de vers en haut? Est-ce que nous sommes occupés de ce que ces richesses qui nous sont données dans la parole? Moi, je dois m'accuser moi-même en premier. Si je parle comme ça, c'est pour... Parce que je le vois en moi-même, que je ne me suis pas assez occupé de la parole dans ma jeunesse. Quand j'étais étudiant, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai étudié? J'ai profité de la vie libre, je n'étais plus à la maison de mes parents, alors j'ai fait ce que je voulais. Oui, moi je l'ai fait. Au lieu d'étudier la parole, j'ai étudié la vie. Et maintenant, il y a tellement de trous dans la connaissance du Seigneur, tellement que je n'ai pas appris dans ma jeunesse, que je regrette beaucoup. Alors, à nos chers jeunes, au lieu de chercher les richesses de ce monde, au lieu de nous occuper tellement de choses d'ici-bas, utilisons les études, le temps où nous pouvons étudier, étudier aussi la parole. Ça nous donne les vraies richesses.
La lecture d'un verset seulement dans Tite 2. Si on fait déjà allusion, mais nous le rappelons, verset 11. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut à tout est apparue à tous les hommes, nous enseignant que reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous rachetât de toute iniquité et qu'il purifiât pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. On a lu tout à l'heure un verset disant que l'apôtre savait être dans les privations, il savait être aussi dans l'abondance. Nous imaginons mal l'apôtre dans l'abondance en train de gaspiller tout ce qu'il avait en abondance, vivant dans le présent siècle sobrement. Même lorsque nous sommes dans l'abondance, vivons dans le présent siècle sobrement. Et justement, c'est notre vie par rapport à ceux que nous côtoyons, à nos semblables. Nous avons eu quelque chose de la relation d'esclave et de maître. Il y a une façon de vivre justement qui soit selon Dieu et pieusement. Nous en avons déjà beaucoup parlé de la piété par rapport à Dieu, une vie de confiance et de dépendance. Voilà ce que nous enseigne la grâce de Dieu. Tout est grâce de sa part. Tout ce que nous avons est grâce de sa part. Tout. Alors tout ce que nous recevons en grâce, puissions-nous vivre ces choses selon Dieu, comme il nous est indiqué ici, sobrement, justement, pieusement.
Peut-être encore un verset dans la première épître à Timothée au chapitre 4, suite à ce que vient de dire notre frère Jean-Michel. 1 Timothée 4 au milieu du verset 8. Ben, on peut lire déjà au verset 8. Exerce-toi toi-même à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Il faut peut-être rappeler, ici, il y a des jeunes qui, à la suite des études ou du travail professionnel, ont besoin de moments de détente et disent « le sport est utile à quelque chose ». La parole de Dieu ne dit pas le contraire, mais l'exercice corporel est utile à peu de choses. Et notre frère Wilfred vient de dire « voilà, on a peut-être perdu beaucoup de temps après des choses qui nous semblaient profitables sur le plan physique et même moral, mais qui n'ont pas été très profitables par rapport à ce que nous aurions pu engranger en lisant et en méditant la parole de Dieu. » Eh bien, la piété, c'est aussi une relation vivante entre l'âme et son Dieu, entre l'âme et son Seigneur, une vie de relation, d'intimité, où on a une jouissance présente, et aussi, comme il vient d'être ici, il est dit, une jouissance des choses célestes et éternelles. On va lire dans le livre des Proverbes, on a lu déjà dans le livre des Proverbes, mais au chapitre 8, Proverbes chapitre 8, verset 10, il s'agit de la sagesse dans ce chapitre 8, la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, comme il est dit dans l'épître de Jacques. Il est dit au verset 10, « Recevez mon instruction, et non pas de l'argent, et la connaissance plutôt que leur fin choisie, car la sagesse est meilleure que les rubis, et rien de ce qui fait nos délices ne l'égale. » Verset 17, « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent me trouveront. Avec moi sont les richesses et les honneurs et les biens éclatants ou les biens durables, nous dit la note, les biens célestes éternels. Et la justice, et au verset 19, mon fruit est meilleur que leur fin, même que leur pur, et mon revenu meilleur que l'argent choisi. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de juste jugement, pour faire hériter les biens réels à ceux qui m'aiment, à ceux qui aiment la sagesse de Dieu, et pour remplir leur trésor, pour remplir leur cœur. » Un dernier point que nous verrons aussi peut-être davantage en détail cet après-midi, mais je lis déjà dans ce qui sera dit à la fin de ce chapitre 6, au verset 19, « S'amassant comme trésor un bon fondement pour l'avenir, afin qu'il saisisse ce qui est vraiment la vie. » Le trésor, on vient de le voir par Matthieu 6, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le trésor, c'est Christ. Le bon de fondement, c'est Christ. L'avenir, c'est Christ. Une personne.
Le 228.
Thank you.
Le 103, la strophe 3. La strophe 3. Verset 4.